attendre. On va le relancer. Ah, c'est...
Un, deux.
C'est bon.
Un, deux.
Voilà. On va y arriver.
Un, deux.
Oui, ça marche.
Un, deux, ça marche. Donc, juste moi, avant qu'on démarre, je voudrais savoir qui a lu la bande dessinée d'Arnaud Floch. Alors, bon, alors déjà, c'est bien, vous allez pouvoir l'acheter à la sortie. Donc ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Et des ventes incroyables qu'on va déclencher ce soir. Non, je demandais ça parce qu'en fait, on va bien sûr... Alors, on peut parler du film. La réalisatrice n'est pas présente, mais on a l'auteur de la bande dessinée et peut-être d'essayer de ne pas tout déflorer, même si le scénario, si je puis dire, de la bande dessinée est un peu différent. Il y a bien sûr tous les éléments, j'ai envie de dire, un peu historiques. Même s'il y a une zone de flou, on le sait, sur ce qui s'est passé dans la boutique, puisqu'il n'y avait pas de témoins, à part Emmett.
Non, il n'y en avait pas, non.
Voilà. Oui. Non. Et en fait, moi, déjà, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a intéressé, pourquoi l'histoire d'Emmett Till ? Qu'est-ce qui vous a dit, moi, je vais en faire un scénario de BD, je vais m'y intéresser, au-delà du fait de l'histoire tragique, de tout ce qu'elle raconte de l'histoire de l'Amérique ?
Ce qui m'a... En fait, c'était une obsession qui remonte à loin, à très loin même. Et, parce que la bande dessinée est sortie en 2015. J'ai commencé à l'écrire, je pense, avant de la dessiner, j'ai commencé à l'écrire en 2013. Et 2012 même peut-être, ça a été long comme écriture. Au départ, j'avais fait un rapport des faits, qui est également fait dans le film ici. Puis je me suis rendu compte que ça rimait à rien. J'avais aussi un éditeur qui m'a dit « Tu te plantes complètement, ça sert à rien parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Bon. » Et quant à l'obsession, elle remontait à loin, elle remontait aux années 90, donc largement 12-13 ans avant, où la première fois que j'ai entendu parler d'Emmett Till, sans qu'il soit nommé, c'est à la fin du livre « Les racines du ciel » de Romain Gary, qui est un livre qui n'a strictement rien à voir avec Emmett Till, qu'il a écrit en 54 et en 55, et qui n'a donc strictement rien à voir, puisque c'est soi-disant un livre sur un des premiers livres écologiques ou écologistes, je ne sais pas, sur la défense des éléphants en Afrique. Bon, en fait, ce n'est pas du tout un livre sur l'écologie, pas plus que sur les éléphants, c'est juste un livre qui relate l'histoire, ou qui invente l'histoire, plus exactement, de cinq ou six personnages qui sont tous des rescapés de la Seconde Guerre mondiale ou des camps de la mort, ou des viols de Berlin par les Russes pour une jeune femme, voilà, et qui se retrouvent en Afrique avec un idéal factice, mais c'est la seule raison d'être qu'ils se sont trouvés, c'est de rejoindre un homme qui cherche à sauver les éléphants. Et or, dans ce livre, arrivé à la fin, il y a je ne pense pas exagérer en disant une trentaine de pages où Romain Gary quitte complètement son sujet, mais complètement. On n'y comprend rien même, tellement c'est évident qu'il a quitté son bouquin, et où c'est un pamphlet de 30 pages sur ce qu'il ne faut pas faire dans la vie, c'est-à-dire lyncher un jeune garçon. Et il relate tout le lynchage d'Emmett Till, donc probablement en live. Il devait finir son livre, il a été, lui, marqué par ce fait divers, qui était un fait divers qui a été quand même retranscrit dans la presse, dans Le Monde, dans l'Humanité, dans Le Figaro, enfin en France, j'entends, qui avait, donc, pour montrer qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui s'y étaient, qui étaient choquées. Et lui a fait son pamphlet à la fin de ce livre, pamphlet que je ne comprenais pas, donc, puisqu'il ne cite pas Emmett Till. Et ça m'a turlupiné longtemps, jusqu'au jour où j'ai lu un livre de Russell Banks, qui en parlait également, en le nommant. Cette fois-ci, je me suis dit, mais c'est le même personnage, quoi. Puis après, j'ai lu d'autres livres de Toni Morrison, dans Les Chants de Salomon, qui parle également de Emmett Till, puis Elliot Perlman, puis Richard Powers, puis d'autres. Et je me suis dit, mais ils parlent tous de ce garçon. Donc là, j'ai commencé à fouiller, et j'ai trouvé, très facilement d'ailleurs, hein, j'ai fouillé et j'ai trouvé toutes les informations sur qui il était. Et c'est là que je me suis dit, ben, je veux faire un livre là-dessus. J'avais fait pas mal de bandes dessinées avant, qui était souvent lié à mon enfance, à mon adolescence en Afrique noire. Donc la culture africaine déjà m'intéressait depuis tout le temps. J'étais déjà un peu allumé quand même pour la musique soul et le blues qui était noir aussi. Bon, donc en tant que petit garçon de la fin de la colonie française qui a grandi là-bas, la culture noire avait une importance énorme pour moi. Pas avec culpabilité d'ailleurs, hein, mais c'était ma culture, quoi. Il se trouve que j'étais blanc par hasard un peu, mais j'étais pas noir, quoi, c'est tout. Mais donc voilà, tous ces éléments conjoints m'ont amené à écrire là-dessus. J'ai donc écrit La vie d'Emmett Till tel que nous le raconte un petit peu la réalisatrice, et c'est là que l'éditeur que j'étais allé voir m'a dit « ça m'intéresse, sauf que tu t'es planté ». Bon, donc il m'a mis sur la voie, sur des choses, en me parlant de Claude Lanzmann, de Shoah, en me disant « regarde ce que Lanzmann a fait avec Shoah ». Il n'a pas raconté les camps, il a évidemment fait témoigner des gens, mais ce n'est pas ça qu'il a raconté. Ce qu'il a raconté, c'est les 60 ans qui ont suivi. Enfin, pour Lanzmann, c'était un peu plus tôt, c'était 50 peut-être, mais il m'a dit « c'est ça qui est important, c'est le travail de mémoire. Qu'est-ce qui existe ?» encore de Emmett Till et pourquoi ça existe encore, quoi. Donc, et quand il m'avait dit ça, là, je suis rentré à la maison en bon écolier, je lui ai dit oui, il a raison. Et donc, j'ai commencé à écrire cette histoire à partir de petits éléments qui sont réels. J'ai d'abord vu que, après la séparation de Caroline Bryant et de son mari, puisqu'ils se sont séparés, elle avait vécu avec un autre monsieur et elle a eu un fils. Voilà, qui est devenu journaliste musical. Voilà, ça c'est vrai. Et donc je me suis
donc
dit
ça c'est vrai dans la BD, parce que c'est vrai que des fois on se dit
ça c'est dans
c'est
la BD, c'est dit, ouais. Voilà. Mais c'est pas une invention, c'était vraiment le cas. Et donc je savais aussi que Emmett avait son cousin qui était devenu musicien de blues. Bon, pas célèbre, mais il était devenu musicien de blues. Et c'est là que j'ai eu l'idée de bâtir mon histoire à moi sur qu'est-ce que peuvent se dire cet homme-là qui a été témoin presque du meurtre quand il avait 12 ans et qui est devenu bluesman, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire tous les deux, un journaliste musical qui vient l'interviewer, et on voit dès le début du livre, on voit que ni l'un ni l'autre ne sont dupes, et ils comprennent tous les deux tout de suite qu'ils n'ont pas du tout l'intention de parler de musique blues, mais de Emmett Till, c'est tout, quoi. Ça a été mon noyau un petit peu pour créer le scénario. Donc à partir de là, évidemment après il y a des zones de fiction que j'ai inventées, quoi, et tout en gardant en mémoire quand même qu'avec un fait comme celui-là, on peut inventer un peu, mais pas beaucoup quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire attention après à ce qu'on fait, quoi. Alors bon, et j'espère avoir réussi. En tout cas, j'ai travaillé pour ça. Et mon éditeur m'a dit que je ne m'étais pas planté. Bon, donc... Et puis voilà, le livre est né comme ça, un petit peu, avec tous ces rebondissements sur, qui ont donc commencé, je vais dire, c'était peut-être plus tard que ça, mais je pense avoir lu Les Racines du Ciel en 92, 93, ou 95 peut-être. Et le livre a pris forme et il est sorti en 2015. Donc il y a eu quand même presque 20 ans de gestation, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais parce que j'ai fait d'autres livres entre-temps, parce qu'il fallait bien bouffer un peu quand même. Mais donc j'en ai fait d'autres. Mais c'était celui-là, mon obsession, comme je disais au début, c'était celui-là. Et je ne le regrette pas, parce que même si depuis j'en ai fait 7 ou 8 autres, celui-là m'aura marqué et me marque encore. Hein, voilà. Alors, ce qui me rend un peu fier, je dis ça humblement, mais malgré tout, c'est que quand j'ai fait ce livre, il n'y avait pas un seul livre sur la planète qui parlait d'Emmett Till, à part les livres de littérature que j'ai cités, qui citait Emmett Till au milieu d'un roman, mais il n'y avait pas un seul livre consacré à Emmett Till, et encore moins un livre qui s'appellerait Emmett Till. Donc du coup, ça me donnait des ailes, parce que je m'étais dit, c'est génial, en plus il marchait très bien ce livre, dès le départ, très très bien, Et donc je m'étais dit, il va être traduit aux États-Unis, enfin tout ce qu'on peut se dire de façon un peu prétentieuse dans ces cas-là, quoi. Et puis bon, j'en suis vite revenu, puisque le livre a été interdit aux États-Unis tout de suite, et donc en 2015. Et bon, malgré tout, on a réussi à le faire rentrer au Panthéon, un petit peu de je ne sais pas comment dire ça, Senghor disait la négritude, mais appelons ça comme ça, puisqu'il est rentré par la petite porte. J'ai des amis qui ont réussi, qui sont bluesmen, eux, et qui ont réussi à le faire parvenir au directeur du musée du blues de Memphis. Et ces amis-là sont dessinateurs, enfin, il est dessinateur, c'est Mezzo qui avait fait un livre sur Robert Johnson. Et donc, du coup, il est rentré comme ça, il est en vitrine du musée du blues. Et ce monsieur, qui s'appelle Scott Barrera, l'a montré à l'équipe de production, pas à la réalisatrice, mais à l'équipe de production, puisque le film, au départ, devait être tourné par une femme qui avait joué dans la série Urgence. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas de télé, mais il paraît que c'est une série très connue. Et donc, elle jouait là-dedans. Elle s'appelle Taraji Henson. Et elle a aussi joué dans le film sur les femmes qui ont travaillé à la NASA. Là, qui ont, voilà. Et en fait, c'est pas elle qui l'a tourné au final. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Donc, c'est Shinoni Shuku, je sais pas si je prononce bien son nom, qui a fini par le tourner. Donc, j'ai été alerté un beau jour en disant, tiens, il va y avoir un film sur Emmett Till. Enfin, ça y est, quoi. Bon, mais voilà un peu tout l'historique de cette chose, quoi. Voilà.
Oui. Alors, j'ai oublié de vous dire au début que vous aviez le droit de prendre la parole. Donc, faut juste lever la main. Moi, je viens vers vous avec le micro pour qu'on puisse bien entendre. Donc, vous avez le droit de réagir, de poser des questions. Il ne faut pas hésiter, en tout cas. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. On est entre nous.
Tout à fait. Je ne mords pas.
J'en ai deux. Alors, c'est 1 et 2. Donc, vous êtes en deuxième position. Ah, peut-être que ce sera la même question. Ça va être le suspense est à son comble.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais savoir pourquoi votre livre a été interdit aux États-Unis.
Parce qu'ils sont cons, quoi. C'est...
voilà, réponse claire.
C'est ça, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. Ils sont... C'est un peuple d'imbéciles. Hein. Et je dois dire, parce que j'ai appris ça par mes amis Jean-Michel Dupont et Mezzo, qui, eux, ont fait le tour avec Robert Johnson, comme ils sont musiciens en même temps, ils ont eu des entrées que moi, je n'ai pas eues. Et dans le Sud, particulièrement, ça ne concerne pas, bien sûr, tous les États autres que les 13 États du Sud, mais 13, je crois qu'il y en a 13, mais la connerie est également répartie, hein, parce qu'ils ont été... terriblement mal accueillis par les Blancs et par les Noirs. C'est-à-dire que c'est un univers de racisme en 2020. Quoi. C'est toujours un univers de racisme intégral. C'est-à-dire qu'ils vivent là-dedans. Quoi. Ils vivent là-dedans et ils ne sont pas prêts d'en sortir. Quoi. C'est les bars de Noirs, même pour des musiciens de blues, comme c'était le cas pour mes amis, étaient interdits aux Blancs. En 2019, hein, voilà, donc c'est récent. Ils ne pouvaient pas non plus aller dans des endroits fréquentés par les Blancs parce que les Blancs avaient su qu'ils avaient joué dans un endroit où il y avait des Noirs. Ben, on n'en sort pas, quoi. Alors évidemment, la porte est fermée maintenant au lynchage. Ça, c'est certain. Encore que le racisme, il est là, archi présent, comme je disais. Mais la porte est fermée au lynchage. Ça, visiblement, on ne peut plus. Quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a une presse mondiale qui fait que ça ne passerait plus. L'envie est encore là, je pense. Hein, mais c'est assez dramatique. Quoi.
Merci. Et puis, il y a la loi Emmett Till qui est passée. Donc, on voit ça en 2022, c'est
2022,
ça ? Au départ, voilà. On pense qu'il y a une erreur de frappe, mais non.
Non, elle est passée en 2022, voilà. Mais il y a eu plein de cas. Il y a eu en 2000, sous Barack Obama, d'ailleurs, il y a eu un collège qui s'est appelé Emmett Till à l'initiative des enseignants. Et Barack Obama est intervenu pour interdire aux enseignants d'appeler le collège et Emmett-Till, quoi. Donc, oui, madame, pardon.
Oui, bah, du coup, c'était un peu la même question, mais c'est pas grave, je vais en poser une autre. Est-ce que, du coup, avec la... vous disiez que votre BD, du coup, était interdite aux États-Unis, est-ce que ça a relancé peut-être un engouement, mais un intérêt pour son histoire?
Il faut croire. Alors, ça, je ne pense pas que ça vienne de ma BD, parce que là, je serais vraiment le roi du monde. Mais le fait est que depuis. Je pense que depuis 2019, il y a une littérature sur Emmett-Till qui est hyper abondante. C'est-à-dire que. Il y a eu le livre sur le papa d'Emmett-Till, d'abord, qui est sorti. Il y en a eu au moins 5 ou 6, ce qui est beaucoup hein, dans pour un fait divers, quand même, 5 ou 6 qui ont traité d'Emmett-Till. Ils ont aussi levé en 2015 ou 2016, c'était au moment de la sortie de la BD, mais c'est pareil, c'était un hasard, ça n'avait rien à voir. Ils ont levé l'interdiction de la chanson de Bob Dylan, Emmett-Till. Qui n'était jamais sorti sur aucun disque, puisque l'État fédéral avait interdit cette chanson. Donc Bob Dylan a réussi, par la bande, à publier en 2016, je crois, ou 2017, sur ce qu'il a appelé ses bootleg series, qui étaient un peu les fonds de tiroir de cuisine. Et chez lui, il y en a eu un paquet, je pense, parce qu'il a bossé toute sa vie. Donc il a réussi à la placer sur un de ces volumes-là. Je crois qu'il y a 9 volumes ou 11 volumes. Et dans un de ces volumes, il a réussi à la glisser là. Et c'est passé comme ça, quoi. Mais ceci dit, on était encore, quand même, en 2018 ou 2019, je ne sais pas, on était quand même... Ben, vous faites le compte, hein, depuis 55, ça fait quand même 50 ans, quoi. Et puis, il y avait Madame Bryant, qui était toujours là, et qu'il fallait protéger, vraiment, puisque cette année, ça a été un grand jour, ça a pété le champagne quand même, puisqu'elle a enfin claqué au mois de mai dernier, mais elle a quand même fait une conférence de presse avant de claquer pour dire qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait parce que c'était un noir, mais qu'elle regrettait que ce soit un enfant. Mais bon, du haut de ses 94 ans, avant de claquer, elle a quand même réussi à placer ça, mais en prononçant un peu un repentir parce que c'était un enfant et en demandant pardon à Dieu, parce qu'en plus elle était bigote comme c'est pas permis. Donc voilà, bon, aujourd'hui au moins elle a claqué. Voilà, c'est quand même, c'était la bonne nouvelle de 2023, mais elle n'a jamais regretté son... Elle a avoué qu'elle avait menti sur toute la ligne. Donc ça, c'est sûr.
Voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure. C'était très intéressant.
Merci.
Moi, je voulais poser une question par rapport donc, à votre œuvre, à ce film. Et je voulais voir quel lien vous feriez, quel pont entre ces œuvres-ci et... d'autres œuvres comme The Green Book ou surtout même toute l'histoire de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter.
Alors pour ce qui est de George Floyd, ben, on voit bien que voilà, on en est toujours là. Et puis il y a eu, je ne connais plus son nom, je m'en rappelle pas, il y a eu la jeune infirmière qui a été tuée chez elle en pleine nuit aussi par la police parce qu'elle avait eu le malheur de dormir visiblement. Donc, mais depuis, il y en a encore eu d'autres dont on parle moins. Je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 assez récemment encore cette année. Là. Donc, c'est que c'est toujours là. Aujourd'hui, on est bien obligé de mettre en taule le flic qui a tué George Floyd. Bon, j'ai lu 2 ou 3 articles sur les gens justement qui travaillent au musée de Memphis. Bon, que c'est une façade, parce qu'en prison, il ne va pas y rester, puisqu'il doit être placé dès la rentrée prochaine. Il doit être placé en résidence surveillée. Il ne peut pas réintégrer son poste de policier, c'est tout. Mais bien sûr qu'il ne lui arrivera rien, de toute manière, quoi. Donc, on en est toujours là. Mais le problème, il est entier. Et je ne me rappelle pas la première partie de ce que vous me demandiez.
J'ai aussi parlé de Green Book.
Enfin, ah oui,
voilà, je voyais les choses comme une frise chronologique. Comment vous pensez que ça évolue, tout ça?
Ouais. Alors ça, je ne sais pas comment ça évolue. Je sais que Green Book, je l'ai découvert comme vous au cinéma. J'en avais jamais entendu parler, hormis le fait que c'est un film assez brillant, je trouve. Et c'est une histoire que je connaissais pas. Je ne connaissais pas l'existence de ce guide touristique un peu hors norme. Là. Et je suppose qu'il y en a plein d'autres, des cas comme ça. On parlait du film où il y avait les trois actrices, Tara J. Hansen, Octavia Spencer, et puis, je ne sais plus si c'est Viola Davis, la troisième, qui joue dans ce film où ce sont ces femmes qui ont œuvré pour la NASA quasiment en secret, quoi. Voilà, jusqu'au jour où il y a quand même eu quelqu'un qui a dit, bon... Faudrait peut-être leur ouvrir l'accès aux fichiers, quoi. Mais film qui était très bien aussi. Donc je pense que des histoires comme ça, malheureusement, il y en a certainement des tonnes qui vont encore sortir, qui n'arrêteront pas de sortir. Fort heureusement, elles n'ont pas l'impact et l'horreur du cas de Emmett Till. Je pense que le lynchage de Emmett Till a été, curieusement, je ne m'avance pas, j'ai lu des trucs dessus, mais il a été un peu masqué par le fait que Rosa Parks, un mois plus tard, a pris le dessus avec un acte symbolique, en refusant de céder sa place dans un bus. Elle a pris le dessus parce que Rosa Parks, contrairement à la famille de Emmett Till, était déjà dans le bain de la communication, c'est-à-dire qu'elle était membre active de la NAACP. Elle était donc soutenue par des militants qui avaient déjà des moyens de communiquer. Et donc cet acte symbolique qui était tout à fait honorable a pris la place de Emmett Till, et pourtant il semble bien que dans une interview, Rosa Parks a déclaré que, quand on lui a demandé « Mais pourquoi vous avez fait cette connerie là, de refuser la place ?» Et elle a dit « Je l'ai fait parce qu'ils ont tué Emmett Till. » Donc elle l'avait fait pour Emmett Till, et c'est ça qui a un peu tué Emmett Till. Voilà. Donc, parce que la NACP, c'est un organisme politique et qui avait des intérêts qui n'étaient pas des intérêts individuels. C'est-à-dire que c'était des intérêts nationaux, ou au moins concernant les États du Sud. Donc, même s'il y avait eu ce meurtre, il fallait aller au-delà. Il y avait Martin Luther King qui travaillait, qui continuait à œuvrer. Martin Luther King, c'était un immense bonhomme, mais on a vu petit à petit aussi que c'était pas un ange, quoi. C'était quelqu'un qui travaillait pour sa pomme, hein, aussi, quoi. Donc, parce que les grands avocats aussi qui étaient, qu'on cite là, bon, ils ont quand même tous été assassinés avant Martin Luther King, quoi. Bon, lui aussi, il y est passé, hein, mais malgré tout, tout était politique quand même à ce moment-là. Il y avait beaucoup, beaucoup d'actes qui avaient une visée politique dans le temps, quoi. C'était bien aussi, d'ailleurs, hein, parce que. Mais c'est comme toute histoire, c'est compliqué, quoi. Il y a, comme toute pièce, hein, il y a deux faces, quoi.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et alors, dans votre bande dessinée, il y a aussi la question de la transmission, en fait. J'ai l'impression, enfin, sur la fin de la bande dessinée, la fin du scénario, oui. Et on parlait de la transmission, enfin, de la société américaine encore raciste. On pourrait parler de la société française aussi, même s'il n'y a pas eu les mêmes massacres, mais voilà, on pourrait aussi en parler. Et sur cette question de la transmission de la haine, finalement, ou à quel moment on décide d'arrêter de transmettre ça ou pas. Il y a cette question dans votre bande dessinée, moi, j'ai trouvé.
Oui, je la termine comme ça. Oui, c'est vrai que le journaliste musical livre des clés à celui qui est devenu un peu son ami, le bluesman, et qu'il respecte. Et puis il en profite pour présenter son fils au bluesman, parce que c'est l'avenir, et que le fils, même si c'est un crétin de 13 ans qui écoute du rap, ça va devenir quelqu'un de probablement pas si mal. Et puis voilà, il lui faut le temps d'évoluer, mais il faut aussi qu'on lui donne les moyens d'évoluer, quoi. Et c'était mon but, en tout cas, c'est-à-dire que voilà, que ça s'arrête pas là, et qu'il y a les générations qui suivent derrière, qui, évidemment, pour quelqu'un de mon âge, sont des crétins, parce que on va quand même aller écouter Public Enemy quand il y a Robert Johnson, c'est malheureux. Mais, mais pourquoi pas, quoi. Voilà.
C'est un autre débat.
C'est ça. C'est un autre débat, voilà. Petit débat, sans importance.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une question. Je n'ai pas lu votre BD, mais c'est pour avoir. Je suppose et je pense que votre BD ressemble au film, du coup. Mais pour avoir. Pour votre bande dessinée, pour réaliser votre bande dessinée, est-ce que vous avez. Vous l'avez réalisé que avec ce que vous avez lu, ce que vous avez lu dans des livres, des journaux, des informations que vous avez trouvées sur Internet. Vous avez pu, interroger comme vous l'avez dit tout à l'heure, des personnes, des témoins, ouais, comme vous l'avez dit, le fils de Caroline, je ne sais plus son nom de famille.
Bryant.
Bryant. Ouais.
Alors non, non, parce que de ma petite ville toute pourrie de Montargis, là, j'ai pu interroger personne. Et alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un outil génial, quoi, avec Internet, qui nous permet d'aller fouiller un peu plus loin que ce que j'aurais pu faire autrement. C'est aussi un outil où il faut faire le tri, parce qu'il y a des trucs qui sont utilisables, d'autres qui sont plus sujets à caution. Mais non, j'ai pas eu la possibilité de rentrer en contact avec. Je pense qu'il y a plus grand monde aussi, hein, depuis. C'était un petit village, Monet. Les gens, ça c'est reconnu, la population noire aux États-Unis vit très peu longtemps, quand même. Hein, je crois qu'il y a 14 ou 15 ans de différence entre l'espérance de vie d'un blanc et l'espérance de vie d'un noir. Ça doit être le hasard. Hein, ils sont plus fragiles, quoi, je pense. Mais donc j'ai pas pu interroger j'ai pas pu interroger de gens. J'ai juste eu la chance d'avoir des échanges avec ces quelques personnes, mais ce sont des échanges qui sont arrivés après la réalisation du livre. C'est-à-dire que j'ai rencontré un monsieur grâce à Internet, hein, un monsieur que j'ai rencontré tout bêtement sur Facebook, voilà, et qui fait la navette entre les États du Sud et Paris, et qui, lui, m'a donné plein d'éléments, plein de clés, pas plus tard qu'il y a 6 mois, où il a d'ailleurs apporté mon livre à nouveau dans le nouveau musée. C'est un musée qui a été créé il y a un an et demi, qui s'appelle le musée Emmett Till à Glendora. Donc juste à côté, c'est paraît-il à 500 mètres de l'endroit où a été retrouvé le corps d'Emmett Till, quoi. Donc, une association a réussi à construire ce musée. Alors, il a beaucoup de mal à exister, puisqu'il est mitraillé toutes les semaines. Donc, ils doivent changer les vitres et les tôles qui l'entourent toutes les semaines, parce qu'il est mitraillé au fusil mitrailleur. Donc, les photos sont assez terrifiantes, d'ailleurs, de voir que ce bâtiment tout neuf, recouvert d'impacts de balles, parce que les équipes de nuit du Ku Klux Klan, qui n'est plus officiellement en activité, mais qui est toujours là, donc dès qu'ils changent la pancarte « Musée Emmett Till », ils la détruisent au fusil mitrailleur, quoi. Et comme là-bas, on trouve des armes assez facilement, si je comprends bien. Et donc voilà, donc ils ont un système de patrouille dans ce musée de Glendora, des patrouilles de nuit qui sont faites par des gens, des Noirs, qui essayent de stopper ça. Mais bon, ils n'y arrivent pas parce que les autres sont très puissants, quoi. Donc ça, c'est en 2023, ça. Hein. Et donc c'est que le problème, il est toujours là, bien prégnant, quoi.
Et à votre avis, pourquoi est-ce que l'histoire d'Emmett Till cristallise autant de difficultés, de haine encore aujourd'hui en 2023? Est-ce que c'est parce que finalement on a montré les choses, sa mère a montré en fait?
Ben oui, elle est allée trop loin. C'est-à-dire dès le premier jour, en laissant le cercueil ouvert, voilà, elle a commis l'irréparable, quoi. C'est-à-dire que elle n'avait pas le droit de montrer un monstre, quoi. Mais ce qui d'ailleurs lui a été reproché, ce qui est par les Noirs aussi d'ailleurs, hein, qui ont reproché parce que les Noirs vivaient dans la peur, on le voit bien dans le film. Et je pense qu'on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à une population noire d'un village comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a eu après des représailles, j'en ai jamais entendu parler, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait eu des représailles dans les mois ou les années qui ont suivi auprès de la population africaine, noire américaine de ce petit village de Monet, là, quoi. Ça ne m'étonnerait pas. Mais j'ai pas d'éléments pour ça. Quoi.
C'est que dans la scène du film, on voit très bien l'oncle Moïse qui dit en fait, j'avais pas juste deux blancs devant moi, j'avais toute la communauté, en fait.
Ben oui, voilà.
Et le risque qu'il prenait, effectivement, oui. En tirant, de faire tuer tout le village.
Tout le village, oui. Et ce qu'on lui aurait pas pardonné, ce que les Noirs du village ne lui auraient pas pardonné non plus, quoi, oui, puisque c'était, ils risquaient leur vie tous les jours, quoi, quand même, ces gens-là, quoi, oui. Tous les jours, en sachant que le droit de vote existait depuis plus de 100 ans, mais que les bureaux de vote étaient interdits aux Noirs. Voilà. Et pourtant, le droit de vote était dans la Constitution depuis Lincoln. Quoi.
Est-ce que le succès de votre bande dessinée vous a étonné ou pas? Parce que je crois qu'on est à la troisième réédition.
Oui. Alors oui, il m'a étonné. Parce que déjà, j'étais habitué à des albums qui n'intéressent personne, ou pas grand monde, mais j'étais habitué en effet à des albums qui intéressent 2 000 à 3 000 personnes. Quoi. Donc voir un album qui en assez peu de temps est passé de 5 000 à 10 000 et qui a donné lieu à une troisième édition après, et qui, c'est bien la preuve là que c'est un livre de fond. Nous, on le voit dans l'édition. Aujourd'hui, les ventes d'une nouveauté, elles se font en 2 mois. Un mois et demi, 2 mois. Enfin, il y a 2 ans, c'était 2 mois. Maintenant, c'est 1 mois, même, je pense. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, on a vendu le livre à 3 000, 4 000, 12 000, enfin, bon, un chiffre, en fonction de la notoriété que l'on a, ou aussi de l'intérêt qu'un sujet peut avoir pour une population donnée. Mais on est habitué à ça. Au bout d'un mois, on sait, là, le dernier livre que j'ai sorti, il s'est vendu à, je crois, 3 500 exemplaires en un mois et demi. Et puis après, c'est 12 exemplaires. Voilà, 12 exemplaires en 2 mois ou en 3 mois. Voilà. Or, Emmett-Till se vend de façon égale, c'est une courbe comme ça qui ne bouge pas. Évidemment, 8 ans après, c'est en petit nombre, ça, c'est normal, mais ça reste. Et il reste aussi dans les librairies. On le voit, les libraires, même quand ils ne le vendent pas, ils le commandent, parce qu'ils aiment bien l'avoir en rayon. Donc, c'est qu'il y a c'est un livre de fond, c'est ce qu'on appelle un livre de fond. Et bon, j'en aurais fait qu'un, mais c'est toujours. Mais les prochains, je vous jure que ça va être, ça va le faire. Autrement, je les ferai pas.
Donc, oui, voilà. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Monsieur.
Donc, après avoir travaillé assez longuement sur le sujet,
oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cette version du film et du film lui-même?
Oui. Alors, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Alors, pour moi, je suis un grand amateur de cinéma, un peu moins que ma femme, mais j'y vais quand même beaucoup. Quoi. Je suis un peu plus feignant qu'elle, c'est tout. Mais j'adore ça. Je pense que c'est un film très bien foutu, qui n'aura jamais le statut de grand film. Parce que c'est pas une grande réalisatrice, c'est pas un monument de cinéma. C'est un film qui tient debout, très académique. Hein, il est vraiment construit de façon très académique, mais il est interprété, je trouve, magistralement par Daniel Deadwyler. Et donc pour moi, c'est une réussite. Et maintenant, moi, quand je l'ai vu, il y avait l'émotion de voir ça. On se dit, tiens, voilà, enfin, un truc qui sort là-dessus. Et alors, j'étais aussi curieux parce que je savais par mon éditeur qu'il y avait 2 scènes qui avait été prise par la réalisatrice ou la production, je ne sais pas, dans l'album pour ressortir dans le film. Donc je voulais voir ça, comme j'avais l'impression de voir mes dessins à deux ou trois reprises dans le film. Et c'est bien le cas d'ailleurs, c'est vrai, c'est bien le cas. Il y a plusieurs scènes comme ça, soit dans la ferme avec Moïse, soit à la sortie du train, et où elle ne s'est pas gênée, elle a pris exactement les cases. Quoi. Tac. Bon, maintenant, je ne vais pas lui demander des droits quand même. Quoi. C'est pas... enfin, si elle veut me donner de l'argent, je veux bien, mais...
Pourquoi pas, c'est après, pas...
Donc pour moi, après, voilà, c'est un beau film. Voilà.
Après, c'est vrai qu'il est très de facture américaine, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de musique. C'est vrai que dans les ouais. films américains, il y a souvent beaucoup, beaucoup de musique. Alors après, on peut aimer ça. Moi, ça m'a un peu gêné. Mais...
C'est un peu gênant.
Voilà, ouais, par moment, on dit bah, ouais. c'est bon, l'émotion, elle est déjà là. Rajouter oui, des voilà. violons, du piano. Ouais. Mais effectivement, il est très bien détaillé, très bien joué.
Et très
et
bien
on a
joué,
tous les éléments ouais. de ce qui s'est passé. Et je trouve qu'on ressent aussi très bien ce dont vous parliez tout à l'heure, de cette peur permanente. Oui. De la communauté noire américaine qu'on n'arrive pas à imaginer en fait.
Et non. Voilà, nous on est à côté de ça. Alors oui, j'ai quand même des souvenirs. C'est évidemment dans une moindre mesure, une très grosse moindre mesure. Mais j'en parle souvent avec mes proches, ayant connu enfant et adolescent l'Afrique indépendante. Enfin, elle n'était pas plus indépendante que moi, parce que De Gaulle avait accordé une indépendance de forme aux États africains, en prenant bien soin de mettre dans chaque État un de ses sbires qui avait souvent été député en France avant, d'ailleurs. Donc voilà. Et la vie que j'ai connue de ma naissance à mes 15 ans, avec le recul aussi... Ben, on m'avait bercé de mes parents en tête, hein, qui n'étaient pas des monstres, loin de là, mais m'avaient quand même bercé en disant bah, « c'est l'Afrique, voilà, c'est formidable, les Blancs sont heureux, ils sont gentils avec les Noirs, et ils ont tous des boys, mais c'est normal, parce que là-bas c'est la tradition ». Je dis non, c'était pas du tout la tradition d'avoir des boys, hein, c'était quand même un peu des esclaves déguisés. Et donc voilà, on m'avait présenté l'Afrique comme ça, où le soir on boit du whisky, parce que tout le monde fait ça, quoi. Mais non, une bouteille de whisky, c'était une année de salaire pour un instituteur africain. Donc, alors que pour les Blancs qui étaient là, c'était une journée de salaire. Quoi. Donc, du coup, on fait les comptes. Moi, je les ai faits très tardivement, mais après avoir lu aussi les archives secrètes qui ne l'étaient plus, les archives secrètes que l'État français a laissé ouvrir 50 ans après l'indépendance. Donc ça, c'est un droit en France, enfin dans les autres pays, je suppose aussi, où là, j'ai découvert, en effet, que dans le village où je vivais, ah ben oui, l'armée française avait quand même tué 3000 personnes au Cameroun, et que, ah ben oui, ben, tiens, c'est des gens que mes parents connaissaient, puisqu'ils mangeaient à la maison. Et donc, on se sent quand même bien coupable quoi, de ça. Donc j'ai été bercé d'abord avec cette illusion-là que ben, c'était en effet le paradis sur Terre. Et c'était vrai, évidemment, quand on n'est pas malade parce qu'on est soigné, qu'on a du fric, pas énormément, mais suffisamment pour passer sur les autres, ben, tout va bien. Hein. Mais il n'en reste pas moins que c'était faux. Donc on peut faire un parallèle, je pense, avec... pas mal de micro-sociétés blanches aux États-Unis qui se disaient « mais non, mais tout va bien, quoi. Voilà, nous, on est gentils ». Et c'est vrai qu'il devait y avoir énormément d'Européens, d'Américains blancs à se comporter très bien avec les populations noires qui avaient été esclaves et qui ne l'étaient plus. Mais qu'il était quand même encore un peu, quoi. C'était puisque, bon, bah, déjà, on ne peut pas aller au bureau de vote, bah, c'est plus embêtant quand même, quoi. Et donc des parallèles, ouais, j'en ai fait plein comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait des albums sur l'Afrique noire, telle que je la voyais en tant qu'adulte, et pas telle qu'on me l'avait dépeinte quand j'étais enfant ou adolescent. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout seul. C'est mon épouse qui petit à petit m'a dit « mais regarde, voilà, c'est... » Parce que moi, je me disais, non, c'est pas possible que mes parents soient comme ça ou que les gens que j'ai connus soient comme ça. Ce cas-là existait certainement aux États-Unis, pareil. Quoi, ouais.
Oui, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on balaye devant notre porte en France. Il y a bien
oui,
sûr
oui,
ce qui se passe aux États-Unis, mais
oui.
On n'est pas dans le déni de ce qui se passe chez nous. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, une dernière réaction, ou... Non, ou si vous souhaitez dire un dernier mot, Arnaud, je ne sais pas.
Bon, je crois qu'on a fait le tour, et puis j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et la
bande dessinée est en vente, puisque vous ne l'avez pas lue. Oui. Alors, là, vous pouvez réparer une erreur terrible. C'est ce soir. Voilà. C'est maintenant ce soir. J'ai aucun droit. Je ne touche rien comme lui. Il n'a rien touché avec la réalisatrice. Moi non plus. Voilà. Donc, bah, merci beaucoup, Arnaud. Et puis, je rappelle qu'il y a le festival de bande dessinée qui démarre demain, voilà, au centre des congrès. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Voilà, ouverture des portes à 10h. Alors, bien sûr, vous serez présents. Et oui, puis, oui, plein d'autres auteurs. On vous retrouve sur Internet, j'imagine. Voilà. Page Facebook, site internet, une cinquantaine, voilà, d'auteurs. Donc, c'est là.
Que des mauvais. Hein. Il n'y a que, ouais, des mauvais. Ouais. Hein.
Alors, ça dure tout le week-end. Hein. C'est samedi, dimanche. Voilà.
Moi, je serai pas là dimanche.
Jusqu'à 18h dimanche. Alors, voilà, il n'est pas là. Il n'est pas là dimanche. Ça, c'est le teasing. Mais voilà. Mais merci beaucoup. Et merci à vous d'être venus ce soir.
Oui, merci à tous. C'est très gentil à vous d'être venus.